Que se passera-t-il en France si le Rassemblement national arrive au pouvoir le 8 juillet prochain? C'est à cette question que se posent sans doute des millions de Français aujourd'hui. Et c'est à cela qu'a voulu répondre Jordan Bardella ce matin. Le président du RN a détaillé son programme pour les élections législatives. Un seul mot d'ordre, le RN est prêt à prendre les rênes du pouvoir. Écoutez-le.
Je le dis solennellement à nos compatriotes, le Rassemblement national est aujourd'hui le seul mouvement à pouvoir mettre en œuvre dès maintenant et raisonnablement les aspirations clairement exprimées par les Français. En trois mots, nous sommes prêts. Dans ces élections, je suis le candidat de la vérité. Celui qui ne promettra pas ce qu'il ne peut pas tenir, et je crois que les Français, conscients de l'état du pays, nous font gré de cette lucidité. Parce qu'on ne résout pas 20 ans d'échecs politiques en quelques heures, le redressement du pays nécessitera d'inscrire l'action du futur gouvernement dans le temps long.
Avec nous ce soir, Alexis Izard, député sortant Renaissance de l'Essonne, candidat à sa réélection. Fabrice Légéry, député européen, Rassemblement national, porte-parole RN pour ses élections législatives. Bonjour. Evelyne Sirmarin, qui est magistrate honoraire, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Charles Sapin, journaliste politique à l'hebdomadaire Le Point. Votre livre Les moissons de la colère, une plongée dans l'Europe nationaliste, est paru aux éditions du CERF. Anna Cabana, éditorialiste de BFM TV. Laurent Neumann, éditorialiste politique de notre chaîne. Fabrice Légéry, avant d'évoquer bien entendu le programme de Jordan Bardella, ce qu'on va faire dans quelques instants, les tout derniers propos du chef de l'État qui affirme ce soir que les programmes des extrêmes, donc le vôtre, mènent à la guerre civile. La guerre civile, votre réaction?
Je crois que ce sont des propos excessifs, ce sont des propos angoissants pour les Français, et il me semble que ce ne sont pas des propos que doit tenir un président de la République qui est garant des institutions et qui doit en toutes circonstances contribuer à l'apaisement de la société française. Et donc franchement, ce sont des mots qui sont particulièrement inappropriés dans de telles circonstances. Nous sommes en campagne électorale. On peut comprendre qu'il ait envie que son camp politique l'emporte, mais on n'a pas le droit de faire peur aux Français de la sorte.
L'extrême droite en matière d'insécurité renvoie les gens à une religion ou à une origine. C'est en cela qu'elle divise et qu'elle pousse à la guerre civile, précise le président de la République. Que lui répondez-vous là aussi?
Tout cela est faux. Le programme présenté par Jordan Bardella montre que nous sommes prêts à redresser le pays. Nous sommes prêts à répondre aux attentes des Français qui sont dans l'urgence le pouvoir d'achat, la sécurité, parce qu'on a assisté à un effondrement du régalien. Et donc, en réalité, l'insécurité dans nos rues, dans nos transports publics, inquiète les Français. Et c'est cela qu'il faut rétablir. Parce que le rôle d'un État, c'est d'abord d'assurer la sécurité des citoyens. Ce n'est pas limité à cela, mais c'est d'abord cela que l'on attend. Et nous aurons également des mesures pour mettre un terme, commencer à mettre un terme à cette immigration incontrôlée. Ça, ce sont les trois mesures, donc pouvoir d'achat, sécurité, immigration. Et ensuite, nous avons bien sûr un programme de réforme plus en profondeur qui commencera à être déroulé après l'été, si Jordan Bardella obtient bien sûr une majorité absolue et peut à ce moment-là gouverner comme Premier ministre.
Alexis Izard, est-ce que vous aussi, vous estimez comme le chef de l'État que les programmes du Rassemblement national et de la France insoumise, donc nouveau Front populaire dorénavant, mènent à la guerre civile?
Moi, je ne reprends pas ces termes parce que tous les jours, vous avez rappelé, hein, je suis en campagne actuellement, oui. Je suis candidat sortant et donc candidat à ma réélection. Toute la journée, je fais du porte-à-porte, je vais rencontrer les habitants de ma circonscription et ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup de peurs. Il y a beaucoup de peurs parce qu'on l'a vu à la télé dernièrement, on a un parti d'extrême droite qui laisse sous-entendre certains propos qui peuvent faire peur à certains Français. On a des candidats d'extrême gauche qui font peur aussi à une autre partie des Français. Ils se demandent qu'est-ce qui va se passer.
Mais ce soir, vous nous dites que vous ne reprenez pas les termes du président de la République, que vous soutenez habituellement avec beaucoup de courage, si je puis me permettre, en tout cas de persistance. Il va trop loin.
Je vais développer parce que les personnes que je rencontre,
s'il vous plaît, est-ce qu'il va trop loin?
Je vais développer parce que les personnes que je rencontre, elles sont peur de ce qui va se passer, mais ce n'est pas des personnes qui vont rentrer dans une espèce de guerre civile. Elles ont simplement peur qu'il y ait une haine qui se libère. Comme on l'a vu dans des reportages, des personnes qui libèrent leurs propos racistes, des personnes qui libèrent leurs propos antisémites, parce qu'il y a une certaine...
Par exemple, l'extrême gauche.
Mais monsieur, le Rassemblement National aussi, vous l'avez vu sur France 2 récemment.
Sérieux, monsieur.
Et moi, ce que je veux dire simplement, c'est que la guerre civile, les Français, ils n'en veulent pas. Les Français, ils veulent de la sérénité. Ce que j'attends, en tout cas, ce que je vais voir, et en tout cas, quand j'écoute le discours de Jordan Bardella, du Rassemblement National, c'est de la grande déception qui va avoir lieu après, parce que je vois rien de concret qui est annoncé par Jordan Bardella. C'est que des mesures, c'est quoi? C'est la binationalité? C'est offrir de la TVA aux grandes industries pétrolières. C'est des mesures.
On va parler du programme, on va le détailler, Alexis.
Big Bang à l'école, c'est aucun aspect.
Le président que vous soutenez tient ce soir des propos extrêmement inquiétants sur l'avenir du pays, dramatisé comme rarement depuis qu'il a été élu président de la République. Est-ce que vous dites, en ce qui me concerne, je ne peux pas reprendre la même terminologie. J'ai cru comprendre que c'était le cas. Vous ne parlez pas de guerre civile.
Moi, je veux le dire clairement, je ne reprends pas ces propos de guerre civile.
Merci.
Ce que je dis, c'est que
c'est
le 30 juin et le 7 juillet, les Français auront fait un choix démocratique. Alors peut-être que le choix qui sera fait par les Français ne me plaira pas. C'est possible, mais c'est aussi la beauté de la démocratie. Donc il faut faire confiance aux Français, et c'est ce que dit le France, c'est ce que dit le président de la République aussi dans son courrier. Il fait confiance au choix des Français.
Laurent Neumann, pardonnez-moi, le président de la République n'a plus que ce type d'argument pour nous faire peur et nous inciter, un, à aller voter et à voter pour ses candidats.
D'abord, je note que le président de la République a quasiment théorisé l'idée qu'il fallait cesser d'utiliser des arguments moraux pour combattre le Rassemblement national. Et donc, dans le même temps, il parle carrément de guerre civile. La guerre civile, c'est quoi ? Des émeutes au lendemain des élections ? Et s'il le pense, parce qu'il ne faut pas exclure qu'il le pense, c'est possible. Mais alors, s'il le pense, il ne fallait pas dissoudre à quelques semaines des Jeux Olympiques.
Oui.
Pardon, mais quand on est soucieux de l'intérêt supérieur de l'État et que l'on pense de bonne foi que la victoire du Rassemblement national ou la victoire de l'autre bloc de gauche, dont les insoumis seraient les chefs de file, si ces deux hypothèses politiques peuvent conduire, je mets des guillemets, à la guerre civile, alors très honnêtement, c'était le pire moment pour prendre le risque de dissoudre, à quoi 5 semaines maintenant du début des Jeux Olympiques en France. Alors, de deux choses, ou il le pense, et il ne fallait pas dissoudre, ou il ne le pense pas, c'est un argument de campagne. Alors, s'il veut signifier que les programmes de tel ou tel divisent les Français, montent les Français les uns contre les autres, c'est un argument, et pour le coup, il est défendable. Mais de là à faire peur en parlant de guerre civile, avec le risque que de tels propos soient auto-réalisateur, oui. Je trouve ça quand même inquiétant.
Anna Cabana, est-ce qu'il est... Bon, guerre civile, je rappelle les termes employés ce soir par le président de la République. Est-ce que d'une certaine façon, il joue son va-tout ?
Mais si vous voulez, c'est que, enfin, il y a quand même quelque chose du pompier pyromane dans cette attitude-là. C'est-à-dire que c'est lui, Emmanuel Macron, qui a pris ce risque. Si risque de guerre civile il y a d'un côté comme de l'autre, n'est-ce pas ? Eh bien, le risque, il l'a pris. Il l'a pris tout seul, dans un tout petit conclave de conseillers. Il l'a pris sans en parler à personne, ce risque. Donc, il y a quand même une question de responsabilité. C'est-à-dire que, si vous voulez, de responsabilité politique, de responsabilité de leadership sur la nation et la République. Donc moi, je veux croire que c'est encore un petit jeu politique d'assez mauvais goût et dégainé par le président de la République dans cette campagne électorale. Parce que sinon, c'est encore plus inquiétant, Yves Calvi, à la vérité quand même. Il y a quelque chose là qui... On ne peut pas jouer avec tous les feux et jouer les apprentis sorciers sur tous les terrains. La sémantique en politique, c'est quelque chose de crucial. Donc venir brandir le spectre d'une guerre civile d'un côté comme de l'autre, quand on est aux manettes et qu'on a soi-même commandé, si vous voulez, appuyé sur le bouton de la dissolution, il y a quelque chose là qui pose un problème, et qui pose un problème à commencer par les gens dans son camp. Et vous voyez, monsieur dit la guerre civile, je ne peux pas reprendre cette expression. Il n'est pas tout seul. Il a le courage de venir le dire devant votre micro. Mais en fait, ils sont majoritaires au sein de la majorité à penser comme vous.
Charles Sapin, est-ce que le président de la République joue un jeu dangereux ce soir ?
Et il joue un jeu dangereux. Moi, je suis d'accord sur l'aspect inquiétant de ce pompier pyromane. Mais je dirais, j'ai une autre inquiétude qui est aussi importante. C'est que, visiblement, le président est frappé d'amnésie. C'est terrible. Parce que depuis 2017, en fait, c'est la même antienne. C'est la même chose, la même stratégie. Il met en scène un duel avec une force populiste, avec le Rassemblement national, pour essayer d'asphyxier toute autre force traditionnelle. Et puis après, au moment où vraiment ce duel se concrétise, c'est attention, c'est moi ou la lèpre populiste, ça c'était en 2017, c'est moi ou le chaos, c'était en 2022, et là dernièrement lors des européennes, c'est moi ou les vents mauvais. Le problème, c'est que ça a très bien marché en 2017. Ça a un peu moins bien marché en 2022, même si, bon, ça lui a permis d'être élu. Ça n'a plus du tout marché aux dernières européennes. Je rappelle juste que le Rassemblement national est arrivé très, très largement en tête de ces élections et a battu tous ses records. Et ils sont même arrivés en tête dans des classes socio-économiques qui, jusqu'à présent, ne votaient jamais Rassemblement national. Je pense aux cadres, je pense aux retraités. Donc, c'est vrai que le chef de l'État C'est inquiétant parce qu'il a ce rôle de pompier pyromane. C'est vrai que s'il avait peur de la guerre civile et s'il croit vraiment à cet argument-là, il ne fallait pas dissoudre. Mais en plus, il reprend une stratégie à son compte dont il a eu la preuve il y a encore 3 semaines qu'elle ne marchait plus du tout.
A-t-il raison de tenir ses propos ce soir, Aline Sermarin ?
Je regardais la très belle enquête Ipsos qui s'appelle « Fracture sociale oui. » depuis 11 ans. Et il y a un article de vos confrères du Monde d'ailleurs là-dessus aujourd'hui. Et ce qu'on peut constater, c'est que les Français étaient divisés il y a quelques années entre ceux qui avaient peur, ceux qui étaient en colère et ceux qui étaient optimistes. Mmh. Et on a maintenant une France qui est soit en colère, soit qui a peur. La frange des optimistes s'est considérablement réduite. Et je crois qu'on peut dire effectivement qu'on est dans une France extrêmement sombre du point de vue de du moral des Français.
De la projection dans l'avenir.
Et de la projection dans l'avenir. C'est pas pour autant du tout qu'on est dans une France qui considère que la discrimination est normale, pas du tout, parce que cette enquête, quand on interroge les gens, par exemple, sur une question très simple, accepteriez-vous que votre fille se marie avec un étranger ? Et en fait, depuis pas mal d'années, ça se réduit de plus en plus, c'est-à-dire que les gens disent oui, pourquoi pas. Donc, on est quand même dans une situation assez complexe.
Oui, la crainte éventuelle se réduit de plus en plus.
La crainte se réduit, c'est-à-dire que quand ça les concerne directement, ça n'inquiète pas spécialement les gens. Donc, on est dans une France en même temps qui est en colère, qui a peur, mais qui n'est pas une France qui a peur des étrangers, mais peut-être qui a peur de l'autre. De façon générale, ça, c'est possible. Et c'est une enquête quand même sur beaucoup, beaucoup de monde et qui est très, très intéressante parce qu'elle est faite depuis 12 ans maintenant.
Alors, on va néanmoins détailler, puisque c'était le propos de cette émission, le programme annoncé par Jordan Bardella aujourd'hui, Anna Cabana. On va donc parler du fond. Sur la forme, en tout cas, on a un Jordan Bardella qui s'affiche serein, confiant. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Premier ministrable, c'est ça ? C'est le message qu'il voulait nous faire passer ?
Jordan Bardella, c'est-à-dire que cette conférence de presse de ce matin, elle a été conçue pour répondre aux accusations, aux attaques de Gabriel Attal la semaine dernière. Oui. Vous vous souvenez, hein, il a dit, donc, le Premier ministre, on voit depuis quelques jours que s'agissant de Jordan Bardella, il y a de moins en moins de programmes et de plus en plus de conditions. Ça commence à ressembler, a dit Gabriel Attal, à un refus d'obstacle. Eh bien, ce qu'a voulu montrer Jordan Bardella aujourd'hui, c'est un, qui avait un programme, ça c'était sûr. Le fond, et deux, qu'il était prêt. Hein. Il l'a répété tellement de fois que c'était même, on pouvait presque en douter, si vous voulez, parce que quand on le répète si souvent, c'est que c'est quand même l'objet même de ce rendez-vous que de le montrer. Alors moi, il y a juste un petit détail que j'aimerais partager avec vous, parce que je trouve que les détails, parfois, en disent long. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jordan Bardella, il a toujours des costumes un peu trop grands pour lui. Et là, comme c'est la question qui est posée aujourd'hui, c'est la question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que le costume, n'est-ce pas, de Premier ministre, est trop grand
pour lui ? Le chef de gouvernement est trop grand pour lui.
Et bien là, si vous voulez, symboliquement, métaphoriquement, politiquement, donc, parce que tout ça se mélange, c'est ça la politique, il a toujours, dans tous les débats, mais y compris là, dans sa conférence de presse, ce costume trop grand pour lui. Ça, c'est assez amusant de voir ça et on se demande si c'est un acte manqué, le retour du refoulé ou presque une ironie, quoi.
Mais alors justement, Fabrice Légéry, est-ce qu'à 29 ans, Jordan Bardella est suffisamment expérimenté pour entrer à Matignon ? Ou est-ce que le costume est trop grand pour lui ?
La valeur n'attend pas le nombre des années.
Ça ne suffira pas comme argument.
Non, mais
j'espère que vous allez être plus convaincant.
C'est quand même quelque chose qui a été écrit il y a plusieurs siècles. Ça fait partie de notre...
J'entends bien, oui.
Donc ça fait aussi partie d'une certaine...
Vous le savez, c'est le pire poste de la Ve République, celui de Premier ministre. C'est-à-dire que ce sont des responsabilités énormes à tout moment.
En cohabitation.
Et à 29 ans, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas évident, sans tenir des propos réac ou idiots.
En cohabitation, c'est particulièrement ardu. Et donc, c'est particulièrement courageux de la part de Jordan Bardella de vouloir servir la France, de le faire. Mais c'est aussi pour cela qu'il a dit qu'il avait besoin d'une majorité absolue pour gouverner. Parce que nous le savons, certains d'entre nous qui ont pu vivre ou qui se souviennent des cohabitations, ça n'est jamais un exercice facile. Et cette fois-ci,
malgré l'urgence, s'il n'a pas la majorité absolue, il refuse de mettre en place ce qui pense être inévitable.
Les propos du président de la République qui parle de guerre civile, alors que peut-être il pourrait aussi se dire, bon, Le camp du Bloc central ne va peut-être pas l'emporter. Je vais peut-être devoir fonctionner en cohabitation. Donc peut-être serait-il temps aussi que le président de la République se dise endossons le costume du président de la République au-dessus de la mêlée politique, parce qu'il faudra, d'une manière ou d'une autre, faire fonctionner la France en cohabitation.
On reste dans la couture ce soir.
Donc je pense
que... Vous voyez, j'ai lancé la mode de la couture.
Vous êtes contente, oui.
Très bonne idée. Je pense que Jordan Bardella est courageux de le faire. Mais en même temps, il a dit qu'il dirait la vérité aux Français, et c'est ce qu'il fait.
Monsieur Bardella n'a jamais rien dirigé, il n'a jamais été élu maire. Je ne crois pas qu'il ait dirigé, ou même une association, ou une entreprise, disait le ministre de l'Intérieur ce matin sur RTL. Est-ce que vous répondez à ça ?
Quel est le bilan de la sécurité de M. Darmanin ?
Cette grande inexpérience me fait personnellement extrêmement peur, ajoute Gérald Darmanin. Vous avez la même analyse ?
Moi, ce qui me fait peur, c'est le bilan de sécurité de M. Darmanin.
Ah. Non, mais là, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi.
Attendez, M. Darmanin a été maire. On va d'abord répondre à ma question. Alexis Izard.
Moi, vraiment, je vous le dis, j'ai brièvement écouté sa conférence de presse avec son programme. Ce qui me saute le plus aux yeux, c'est qu'il n'y a rien de concret dedans. C'est que tous les jours, pendant 2 ans, à l'Assemblée nationale, ils nous ont balancé beaucoup de grandes idées, de grands faits. La TVA baissée pour les produits de première nécessité, plein de choses comme ça, au fur et à mesure des débats. Et là, je ne vois rien de concret. Le quotidien
ils ne sont
des
pas
Français
préparés,
ne change
finalement, c'est
rien.
Ce que vous nous dites.
Non, c'est simplement ils se rendent compte que être un député d'opposition c'est très facile, mais se préparer à gouverner c'est extrêmement compliqué. Et là, on le voit, ils ont tout retiré. On voit un audit des finances publiques. Un audit des finances publiques. Ils ont des députés qui sont en commission des finances qui évaluent le budget tous les ans. Donc le budget, ils l'ont vu au moins 2 années de suite. Ils vont faire un audit du budget. C'est ce qu'on fait. Ça, c'est ce qu'on propose quand on est candidat au municipal et qu'on n'a pas accès aux comptes de la ville. Quand on prétend devenir Premier ministre, proposer comme seule économie de faire un audit du budget, je trouve une impréparation, mais totale. Moi, je trouve ça très surprenant. Je trouve ça vraiment très surprenant. Je ne sais pas ce que vous lui conseillez à M. Bardella, mais je trouve ça loufoque comme proposition. C'est la première fois, je pense, qu'un candidat à Matignon propose ça.
Ben, je crois que c'est tout à fait nécessaire parce qu'il n'y a pas de sincérité et de transparence budgétaire. Ah. On a vu à la fin de l'année 2023...
Les députés qui siègent en commission des finances l'analysent tous les ans, le budget.
Les finances publiques.
On est lancé une petite bombe aux représentants du Rassemblement national. C'est leur main qui vous répond. Allez-y.
Non, mais ça va au-delà de l'État. Il faut savoir aussi que dans certains domaines, comme par exemple les dépenses de défense, tout n'est peut-être pas dans le budget. Il y a peut-être des entreprises.
On nous cache les vrais chiffres du budget de la France.
Il y a peut-être des engagements. Il y a peut-être des engagements.
Peut-être. Tout est dans le peut-être.
C'est difficile, non ?
Il y a des préfinancements qui ont été exigés de la part d'entreprises. De l'industrie d'armement française. Je peux vous dire qu'il y a des données confidentielles, parce que dans le domaine de la défense, il y a des domaines confidentiels, mais il y a en tout cas à aller vérifier qu'on ne va pas découvrir de nouveaux cadavres budgétaires dans le placard le lendemain de l'arrivée de Jordan Bardella aux responsabilités de Premier ministre.
Laurent Neumann, est-ce qu'il y a vraiment un mystère ? Est-ce que vous trouvez qu'il nous a donné un programme ce matin qui est à peu près clair ? Enfin voilà, comment vous percevez les choses ?
Jordan Bardella, il parle bien, il présente bien,
ouais.
Mais le programme, honnêtement, vous connaissez ce film, « Chérie, j'ai rétréci le programme ». C'est exactement ça. Vous prenez les mesures sur le pouvoir d'achat. Elles sont conditionnées, monsieur vient de le dire, à un audit.
Oui.
Donc à part la baisse de la TVA sur l'énergie, qui elle-même est conditionnée à des négociations avec l'Union européenne, il n'y a plus rien. Sur l'immigration, quelques mesures, mais conditionnées au Conseil constitutionnel et à une hypothétique future révision de la Constitution. Un certain nombre de mesures dépendent de notre respect des traités. Et quand vous faites l'addition de tout, il ne reste pas grand-chose.
Et justement, Jordan Bardella a donc détaillé les urgences selon son projet. Et la première des urgences pour les Français, c'est le pouvoir d'achat. Nous allons en parler dans notre séquence « Les éclaireurs ». Bonsoir Karine de Ménonville.
Bonsoir Yves.
Quelles sont les promesses de Jordan Bardella pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, notamment ceux des classes moyennes ?
Oui, parce que Jordan Bardella a choisi avant tout de parler à son électorat. Ce qu'il faut comprendre, des classes moyennes actives qui se sont appauvries à cause de l'inflation sur l'électricité, sur l'alimentation et qui sont exclues des dispositifs d'aide. Alors tout d'abord, un chiffre clair, si on regarde ces élections européennes, les professions intermédiaires ont voté à 32% pour le Rassemblement national. C'est plus 15 points par rapport aux élections européennes de 2019. Donc c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'il veut leur parler. Alors dans son programme détaillé aujourd'hui, la principale mesure, on l'a dit et redit, ça concerne l'énergie et en particulier cette fameuse facture d'électricité qui a augmenté de 50% ces dernières années. Jordan Bardella dit vouloir renouer avec un prix français de l'électricité pour redonner, je le cite, de l'oxygène aux ménages et aux entreprises. Alors la promesse, c'est moins 30% sur la facture d'électricité grâce à la baisse de la TVA de 20% à 5,5 sur tous les secteurs de l'énergie et une dérogation aux règles européennes sur le prix de l'énergie. Autre point, la position sur les retraites, eh bien, elle a été clarifiée. Abrogation de l'âge légal à 64 ans dès cet automne. Et en ce qui concerne l'âge, c'est 60 ans pour les Français qui ont commencé à travailler avant 20 ans et qui ont 40 annuités. Et pour les autres, c'est 62 ans avec un calendrier progressif qui devrait être détaillé. Enfin, dernière mesure, la suppression de la réforme de l'assurance chômage, le remplacement de l'impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune financière. Jordan Bardella a voulu parler à son électorat.
Merci beaucoup Karine de Ménonville. Laurent Neumann, oui.
Juste une précision, donc oui. Ça confirme ce que je disais. La partie pouvoir d'achat liée à l'énergie, ça dépend d'une réponse européenne, donc ça ne sera pas effectif dans les semaines qui suivront l'arrivée de Jordan Bardella à Matignon.
Moins 30% sur la facture d'électricité, c'est pas possible.
J'ai pas dit que c'est pas possible. Ah bah. Il faudra d'abord qu'il y ait des dérogations au niveau européen. Ça peut prendre des semaines et des mois. D'accord. L'Allemagne, par exemple, en a bénéficié. Ça a pris des mois. Deuxième exemple, la retraite. La retraite, c'était abrogation, abrogation, abrogation. Là, ce qu'on comprend, c'est que dans un premier temps, il y aura une mesure très favorable aux carrières longues, prise immédiatement, j'ai bien écouté. En revanche, le retour de 64 à 62 ans, ça dépendra de l'audit. On n'est pas capable de vous dire maintenant, et surtout, on n'est pas capable de vous dire combien ça coûterait et par quoi ce sera financé, ce qui est là pour le coup est vrai pour la quasi-totalité des mesures qui ont été prononcées.
Vous l'avez compris, les enjeux sont énormes. Fabrice Légéry, je reste sur l'électricité. Dans quel délai pensez-vous faire baisser, alors il y a aussi des promesses sur le gaz, sur l'essence, mais je reste sur l'électricité, la facture d'électricité peut-elle baisser de 30% comme l'affirme votre candidat ?
Bien, nous allons, c'est pour ça que ça fait partie des urgences, immédiatement nous attaquer à ce dossier. Il y a des baisses de TVA qui sont prévues sur la TVA, par exemple l'Espagne, de manière plus générale, sur la baisse de TVA de 20 à 5,5%, des États comme l'Espagne, comme le Portugal ou la Pologne ont pu aisément obtenir cette dérogation de la Commission européenne, là où il y avait un besoin de déroger pour aller en dessous de 15% de TVA. Et en ce qui concerne le prix français de l'électricité, donc qui consiste justement à sortir de la tarification qui nous impose aujourd'hui d'aligner le prix sur, on va dire, le prix de production du gaz et du charbon, et bien ça, nous allons immédiatement ouvrir des discussions, bon, des négociations.
Bah oui, mais vous rendez compte, pour ceux qui nous écoutent, oui, vous nous dites on va ouvrir des discussions. Quand est-ce qu'on peut voir 30% de baisse sur la facture d'électricité, si cette mesure est une mesure honnête, celle qui est annoncée? Mais j'ai envie de vous dire, pareil pour le plein moins cher, qui concerne des millions de Français qui travaillent tous les jours.
Nous sommes obligés de redresser la France, nous sommes obligés de redresser le pouvoir d'achat des Français, et nous sommes obligés de réparer toutes ces erreurs, et en particulier le fait que les gouvernements précédents n'ont pas défendu les intérêts des Français. Et Emmanuel Macron porte une responsabilité lourde en particulier.
Donc ce sont des mesures d'urgence, mais alors surtout pas pour tout de suite.
Ce sont des mesures d'urgence qu'il faut traiter immédiatement, commencer à traiter immédiatement. Par exemple, le prix de l'électricité français, il est incompréhensible pour des Français qui nous écoutent, que le président de la République ait accepté que la France perde l'avantage compétitif qu'elle avait de produire une électricité nucléaire deux fois moins chère que le reste de l'électricité.
Donc les Français partiront en vacances sans baisse du prix sur l'essence et sans baisse du prix sur leur facture d'électricité. Je comprends bien la réponse que vous venez de me faire. Vous dites qu'il y a des délais, c'est pas facile. Je peux le comprendre, mais enfin on est obligé de le faire remarquer. Vous vouliez intervenir ?
Oui, non, mais ce qui est très intéressant, c'est que le Rassemblement national fait ici un pari électoral. L'objectif de cette conférence de presse n'était pas de convaincre ses électeurs, c'était de convaincre tous les autres, ou plutôt les rassurer.
D'élargir.
Alors, pas élargir, pas de conquérir de nouveaux électeurs. Ils sont, en fait, le Rassemblement national, moi, ce qui me marque, c'est qu'ils sont déjà dans une campagne de second tour. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'avec l'élan des européennes, où vous avez eu un vote contestataire très important, où de toute façon le Rassemblement national est identifié sur les thématiques phares que sont immigration, pouvoir d'achat, sécurité. Ce qu'il faut maintenant pour cette formation, pour sécuriser cet atterrissage, si je puis me permettre l'expression, à Matignon, c'est de rassurer les autres électeurs qui ne voteront pas pour eux, mais les désamorcer ce vote de barrage qui peut intervenir au second tour. Et c'est pour ça que Jordan Bardella met en scène en fait des reports ou des retraits programmatiques. On reporte l'abrogation de la réforme parce qu'évidemment ça coûte cher. On reporte cette baisse de la TVA sur ce paquet de 100 produits parce que de première nécessité parce que ça coûte cher. Mais ça va même au-delà de l'économie. On va reporter cette mesure très polémique de suppression du voile dans l'espace public. Et finalement, en ça, Jordan Bardella est un parfait produit de Marine Le Pen, on s'en souvient. En 2018, lorsqu'elle préparait déjà sa campagne présidentielle de 2022, elle a abandonné avec cette même logique la sortie de l'Union européenne, l'abandon de l'euro, l'interdiction de la double nationalité.
La sortie de l'OTAN.
En fait, le pari est en une phrase, c'est sacrifier la promesse de rupture sur l'autel de la crédibilité et du sérieux.
Allez, je vais vous donner la parole, bien entendu. Alexis Isard, oui, vous voulez intervenir.
Mais ce que je voulais dire résume à peu près ce qui vient d'être dit, c'est que malheureusement, quand on prend la possibilité d'accéder au pouvoir, on prend les réalités qui vont avec. Et le Rassemblement national nous a habitués à des phrases simples, à des propositions simples. Mais quand on prend le marché de l'énergie, malheureusement, le sujet, il n'est pas si simple que ça. Et si le prix est corrélé au prix du gaz, c'est parce que lorsque vous ne pouvez plus faire tourner des centrales nucléaires, c'est des centrales à gaz qui tournent et c'est pour ça que le prix est lissé. Et quand vous, vous voulez retirer l'intégralité des centrales photovoltaïques, de toutes les énergies alternatives, et ben vous allez pousser ce moment où on n'utilise plus le nucléaire et on utilisera du gaz. Et quand le parti de Jean-Luc Mélenchon, de la gauche réunie, veut cesser d'utiliser des centrales nucléaires, ben c'est l'exact inverse qui va se passer. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus complexe. Et ce que nous, on veut faire, et ce qu'on va faire, ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, c'est, en réformant ce marché-là, de contractualiser des contrats beaucoup plus long terme qui permettent de lisser les prix et d'avoir des prix plus faibles pour les Français. C'est une réalité, ça fonctionne.
Voilà, lisser est toujours un terme moi, qui m'inquiète quand il s'agit de baisse de prix.
En fait, quand le contrat est à plus long terme, lisser, ça permet de voir plus loin. Quand le contrat est à 10 ou 15 ans, ça permet de pouvoir...
Non, mais vous le présentez habilement, mais je crois que ceux qui nous écoutent comprennent qu'ils ne doivent pas attendre, en tout cas, de baisse de leur facture d'électricité.
Alors, avec la mesure que je vous donne, c'est une baisse d'une quinzaine de pourcents. 15% avec, en fait, avec des contrats à long terme, ça permet de baisser la facture, bien sûr. Mais c'est déjà en train d'être négocié. Moi, je ne vous fais pas de fausses promesses.
C'est déjà fait, d'ailleurs.
Bien sûr, c'est grâce à la négociation en cours.
Ça n'a rien à voir, d'ailleurs, avec Gabriel Attal ou avec votre programme économique.
C'est les négociations au niveau européen.
Mais il y a quand même une forme de « et en même temps » de Jordan Bardella et du Rassemblement National.
Ah bah alors là.
Le « et en même temps », c'est qu'à la fois, il faut, eh bien, il ne faut pas donner le sentiment si près du pouvoir de lâcher les classes populaires qui ont fait le succès du Rassemblement National, qui ont fait le succès de Marine Le Pen, puis celui de Jordan Bardella, donc surtout ne pas les lâcher. D'où l'insistance qui est mise hein, sur cette mesure dont on nous explique quelle est la principale mesure, donc cette baisse de la TVA pour les carburants et l'énergie. Donc si vous voulez, c'est pour ça que les tambours et les trompettes sont sortis, mais pour tout le reste,
c'est rétréci.
Tout le reste, eh bien, c'est renvoyé à un second temps par-ci, un second temps donc pour la TVA sur les produits de première nécessité, un second temps pour la réforme de la réforme des retraites. Et en fait, si vous voulez, il y a véritablement besoin de montrer qu'on est responsable et raisonnable, hein, puisque il a dit Jordan Bardella à plusieurs reprises qu'il fallait la raison budgétaire devait primer. Donc le sentiment qu'on a, c'est que donc et en même temps là pour cette fin de campagne législative et tout de suite après, fort de l'audit dont il annonce qu'il sera lancé dès son arrivée à Matignon, eh bien fort de cet audit, il pourra dire au nom de cette raison raisonnable budgétaire, finalement je peux pas.
Alors la sécurité fait partie des urgences du RN, avec un projet davantage de fermeté pour les délinquants et les récidivistes, y compris les plus jeunes, avec la fin de l'excuse de minorité qui est envisagée. Est-il possible qu'à 15 ou 16 ans, on soit jugé comme un majeur dans certaines affaires et est-ce souhaitable? Répondez-nous à cette question, Fabrice Légéré, puis on va se tourner ensuite vers Evelyne Servarin.
Je voudrais juste revenir sur la question de la responsabilité budgétaire. Quand on voit que la France, la notation de la France par des agences financières a été dégradée juste avant les élections européennes. La France fait aujourd'hui l'objet d'une procédure par la Commission européenne de déficit excessif. C'est le bilan de la gestion Macron. Donc il est tout à fait normal que Jordan Bardella, candidat Premier ministre, fasse preuve d'une grande responsabilité dans l'expression, en tout cas de tout ce qui pourrait agiter les marchés financiers. Donc c'est une preuve de responsabilité, c'est la preuve qu'il est tout à fait prêt à exercer le gouvernement. Alors concernant la sécurité...
Merci. Est-il possible qu'à 15 ou 16 ans, on soit jugé comme un majeur dans certaines affaires?
Ben, écoutez, quand on voit la violence, le déchaînement de violence, quand on voit des actes commis par des préadolescents qui tuent des camarades, qui se comportent comme des délinquants...
parfois chevronné à l'âge de 15 ans, il faut quand même se poser la question.
Donc on doit les juger de la même façon, soyons simples dans l'expression.
Il faut en tout cas adapter pour que l'excuse de minorité ne puisse plus être invoquée de manière systématique.
On va poser la question à une magistrate.
Oui, alors l'excuse de minorité, vous savez, elle est obligatoire en dessous de 16 ans, mais entre 16 et 18 ans, elle peut déjà être écartée.
Oui.
Bon, en dessous de 16 ans, le problème qu'il risque d'y avoir si vous décidez d'une loi en ce sens, c'est qu'il va y avoir un problème du Conseil constitutionnel qui a déjà jugé dans les 15 dernières années que ça, ce n'était pas possible de la supprimer en dessous, de toute façon, de 16 ans, et surtout de façon générale. Il faut toujours pouvoir y recourir. Et de toute manière, je ne comprends pas en quoi ça règle le problème de la délinquance des mineurs qui a diminué du point de vue du nombre de condamnations, mais les problèmes posés ces dernières semaines, mois, par la délinquance des mineurs, ce sont les mineurs criminels très jeunes. Et ça, tout le monde s'accorde à considérer qu'il y a une difficulté avec ça. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux réfléchir un peu à pourquoi ces enfants sont des auteurs de crimes atroces, le viol antisémite présumé récent.
Vous comprenez que etc. les Français n'attendent plus de la réflexion, mais quand même de l'action.
Non, mais l'action, si vous voulez, elle s'impose, notamment pour les mesures dites d'assistance éducative, où là, il y en a énormément qui ne sont pas pris en charge, le nombre de juges des enfants, etc. Mais pour la délinquance des mineurs proprement dite, si vous souhaitez enlever l'excuse atténuante de minorité, vous aurez le problème du Conseil constitutionnel et de la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est la même chose, je finis là-dessus, pour le droit du sol. Vous dites que vous souhaitez modifier encore le droit du sol. On n'a pas un droit du sol total, en France, mais enfin, on a un droit du sol qui n'est pas du tout automatique à la naissance, mais à la majorité à 18 ans, on peut être français quand on est né de parents étrangers. Mais pour ça, il faudra aussi l'avis du Conseil constitutionnel une fois la loi votée. Vous aurez du mal à l'avoir parce qu'à chaque fois, le Conseil constitutionnel a dit « ça n'est pas constitutionnel ». Là, on a un équilibre depuis à peu près la fin du 19e. On peut être français si on est né de parents étrangers, mais si on a quand même la preuve que pendant 5 ans, on a résidé en France pendant sa majorité, il n'y a pas besoin de demander la nationalité. Enfin, on n'est pas français de façon automatique. Donc, et vous aurez encore plus le problème de la préférence nationale. Alors là, il faut une loi référendaire. Il faudrait que le président de la République accepte, sur demande du Premier ministre, un référendum. C'est pas du tout évident que si c'est Monsieur Macron, il acceptera de faire un référendum là-dessus. Donc il faudrait évidemment que le Rassemblement national soit à la présidence de la République, ce qui est possible bien sûr un jour. Et après, bon, le problème c'est que c'est une loi sur l'article 11 de la Constitution, qui est une compétence qui ne permet pas d'agir sur la préférence nationale. Il faudrait réformer la Constitution, c'est-à-dire un référendum constitutionnel. Il y a beaucoup, beaucoup d'obstacles.
Les crimes entre jeunes et parfois très jeunes se sont multipliés, Alexis Izard, ces dernières semaines. Ça vient d'être évoqué. On pense évidemment à ce qui s'est passé à Crépol ou la semaine dernière au drame de Courbevoie. Le Premier ministre lui-même a dit que le débat était ouvert. Est-ce qu'à titre personnel, vous êtes favorable, on pourrait dire, à une atténuation de l'excuse de minorité?
Moi, je ne suis pas aussi expert que madame sur les sujets de justice, mais ce que je crois, c'est que cette excuse de minorité, elle ne doit plus être la règle, mais elle doit toujours exister. C'est d'ailleurs ce que Gabriel Attal a dit dans le discours de Viry-Châtillon suite au drame qui est survenu avec le jeune Chemseddine. Il y a le sujet qui est en train d'être étudié. Donc, je dirais, rien de nouveau sous le soleil, c'est déjà en train d'être étudié par les services de l'État. Pour ce qui est de la double nationalité, du droit du sol, tous ces sujets, je suis...
Mais on ne parle pas d'études, on parle de suppression dans le programme du Rassemblement national.
Bien sûr. Mais actuellement, il faut quand même écouter tous les professionnels du droit qui donnent leur avis sur le sujet, parce qu'il y a les grands principes et les grandes idées, mais il y a aussi la réalité. Il faut que ça colle à la réalité. Moi, à titre personnel, je suis plutôt favorable au fait que ça devienne une possibilité et plus la règle. Mais maintenant, je m'en remets aux professionnels du droit, parce qu'il faut écouter aussi les professionnels du droit sur ces sujets-là. Mais vraiment, je veux me prononcer sur le sujet du droit du sol, le sujet de la double nationalité. Oui. Là aussi, vous pouvez avoir vos positions, vous pouvez avoir des grands principes sur ces sujets-là. Mais je vous le dis, ça ne changera absolument rien au quotidien des Français. Ce que nous demandent les Français là, dans cette élection et dans l'élection qui vient de passer aux européennes, c'est un changement de leur quotidien. J'ai l'impression, en écoutant ce que vous dites et en écoutant la conférence de presse de M. Bardella, il n'y a
rien pour le concret des Français. Absolument rien.
Je pense, alors il y a plusieurs sujets, on avait commencé par les mineurs et l'excuse de minorité. Je pense qu'au-delà de cette mesure, il y a aussi tout un environnement sur l'éducation des jeunes et notamment la sanction immédiate, adaptée dès la première incartade, avec notamment des centres éducatifs fermés, des politiques, je crois, aux Pays-Bas, qui sont, semble-t-il, assez performantes en la matière, c'est-à-dire on applique une sanction dans un centre éducatif fermé dès la première incartade, dès le premier acte de délinquance, tant que le jeune est encore en situation de pouvoir être éduqué, afin d'éviter cet engrenage, cette spirale. Mais quand on voit des jeunes adolescents du 15 ans ou préadolescents, parfois plus jeunes, qui ont déjà un palmarès de délinquance que certains délinquants chevronnés adultes n'ont pas à l'âge de 30 ans.
Pardon, monsieur Leggeri, qu'est-ce que la levée ou la suppression définitive de l'excuse de minorité aurait changé au crime de Courbevoie la semaine dernière, sachant que deux des trois auteurs de 13 ans dorment depuis les faits en prison? J'ai du mal à comprendre.
Ce viol,
ou alors je ne sais pas à quoi vous voulez vous attaquer précisément.
Au fait qu'il y a une perte de repères de la part d'adolescents qui commettent.
Si l'excuse de minorité était levée, je le répète, deux des trois auteurs qui ont 13 ans, c'est extrêmement jeune, ils dorment en prison. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus?
Il faut dans ce cas-là se féliciter que les magistrats qui ont eu à connaître de ce dossier.
Donc on a
mais besoin. Par exemple, si je vous dis, est-ce que vous souhaitez que les peines ne soient plus minorées pour les mineurs? Voilà, d'une certaine façon, j'aurais tenter aussi d'ajouter et de vous dire, mais est-ce que vous pensez qu'un jeune délinquant qui n'est pas dissuadé par la perspective d'aller en prison pendant 2 ans le sera davantage s'il risque de prendre 5 ans? Vous voyez ce que je veux dire?
C'est de réclusion criminelle encourue quand même, hein, pour un mineur, même complètement mineur. Donc c'est pas rien.
Je pense qu'il faut pas sortir une mesure de son contexte plus large, qui est celui du rétablissement de l'autorité. Ça va aussi avec le rétablissement de l'autorité de la police, de l'autorité de la justice.
Comment? Parce que j'ai pas compris comment, moi, dans votre programme. Parce que le rétablissement de l'autorité, c'est bien, c'est une jolie phrase dans un programme, mais qu'est-ce que vous proposez pour ça?
Par exemple, pour la police, c'est aussi la présomption de légitime défense.
On a renforcé la loi
de l'ordre, font usage de leurs armes et n'ont pas entendre parfois, comme on a entendu il y a un an, ça a mis le feu aux poudres dans des quartiers sensibles, oui. Et pas seulement, d'entendre, c'était le président de la République, qui, dans cet événement où un jeune nommé Naël a été tué par un policier, eh bien, on a eu le président de la République qui a dit tout de suite « c'est inexcusable et incompréhensible ». Bon, je pense que c'est le type de propos qui ne peut que nourrir chez les forces de l'ordre une forme de vulnérabilité et de désarmement.
Donc votre seule proposition, c'est de ne pas avoir des propos comme ça?
Non,
c'est juste ça, parce qu'il faut du concret quand même.
Par exemple, les militaires en opération avaient, il y a plusieurs décennies, n'avaient pas je vous parle de choses qui ont été mises dans la loi il y a à peu près une quinzaine d'années, qui permettent d'avoir cette présomption de légitime défense, en tout cas que l'acte du militaire en opération ne va pas se retrouver qualifié comme s'il s'agissait d'un homicide.
Je ne parle pas, si vous le voulez bien, dans les opérations extérieures. On va rester en France et on va parler de notre école, parce que c'est important aussi. Jordan Bardella nous promet ni plus ni moins un Big Bang de l'autorité à l'école. Et bien justement, bonsoir Maxime Repère, merci de nous rejoindre par Skype. Vous êtes vice-président du SNALC, hein, c'est le syndicat national des écoles, collèges et lycées, l'uniforme obligatoire, l'interdiction des téléphones portables, le vouvoiement des enseignants. Tout cela est-il nécessaire pour restaurer l'autorité dans nos écoles et que la boutique tourne bien?
En tout cas, ce sont des thématiques que j'ai déjà entendues par le passé et quand on regarde bien, on est surtout sur, j'ai envie de dire, des éléments qui ont plutôt une portée symbolique. Or, ce que nous attendons au niveau du SNALC, ce ne sont pas des symboles, ce sont des actes. Ce qui a été dit dans ce programme, et je rappelle d'ailleurs que notre syndicat est un syndicat de métier, que nous sommes apolitiques et que nous ne sommes pas des directeurs de conscience, eh bien, ce qui a été dit reprend peu ou prou, si vous voulez, ce qui est dit actuellement par le gouvernement, c'est-à-dire parler de l'autorité, parler de sécurité. Voilà, donc c'est beaucoup de paroles. Et vous savez, nous sommes très vigilant au niveau du SNEL par rapport aux promesses qui sont faites, parce qu'on se rend compte que très souvent, une fois que les personnes sont élues, eh bien, les promesses n'aboutissent pas, ou alors pas de la façon dont nous aurions voulu. Justement. Et quand on parle par exemple d'autorité, moi je veux bien que l'on parle de vouvoiement des élèves qui se lèvent, etc. Mais vous savez, l'autorité, c'est avant tout des enseignants qui sont respectés, des enseignants qui se sentent considérés dans la société et des enseignants qui sont, j'ai envie de vous dire, mieux rémunérés.
Maxime Repère, il y a aussi l'annonce en cas de plainte pour violence, menace ou injure d'une protection fonctionnelle automatique pour les membres du corps éducatif. C'est ce que vous demandiez, non ?
La protection fonctionnelle, ce que nous demandons au niveau du SNALC, hein, tout simplement, c'est qu'elle puisse être accordée de façon bien plus facile qu'auparavant. Et il y a eu des progrès d'ailleurs, hein, depuis l'assassinat de Samuel Paty, il y a eu des progrès en la matière. Voilà, les choses sont devenues plus simples au niveau de la demande de protection fonctionnelle, parce qu'aujourd'hui, il y a une réelle insécurité dans les écoles. L'école devient une cible, les enseignants deviennent une cible. Donc voilà, il faut protéger davantage les enseignants.
Parmi les mesures envisagées par l'ORN, il y a ces centres spécialisés pour les élèves perturbateurs et les peines planchées pour les conseils de discipline. Vous débarrassez des élèves les plus perturbateurs, est-ce que c'est souhaitable ?
Je ne sais pas derrière les propos évoqués dans ce programme, quelles vont être les réalités. Vous savez ce que je disais tout à l'heure, hein, on affiche des choses.
Si vous pensez que c'est une bonne idée, je comprends que ce soit embarrassant pour vous de répondre, mais enfin voilà, est-ce que vous êtes en accord avec ces...
C'est pas une question que ce soit embarrassant ou pas de répondre, c'est simplement qu'on balance des mots, on balance des expressions et derrière, il n'y a pas de détails sur ce qui est annoncé. Une chose est sûre, il faut que les élèves puissent être en sécurité. Il y a quelques mois, nous avions évoqué au niveau de notre syndicat la problématique des élèves fichés S. Effectivement, oui. On ne peut pas, par exemple dans le cas d'élèves fichés S, considérer que ces élèves soient de façon anonyme dans les structures scolaires sans que les personnels, par exemple, ne soient au courant.
Bien sûr. Évelyne Sirmarin, il y a presque une volonté de judiciariser parfois les procédures disciplinaires. Qu'en pensez-vous ?
Tout à fait.
À l'école, bien entendu.
Mais même sur les peines planchées, en fait, il y a une volonté de rétablir les peines planchées, c'est-à-dire une barémisation de la peine. Le programme du Rassemblement national nous propose que, finalement, on commet un vol, mais c'est la même chose pour les procédures disciplinaires à l'école, ce soit automatiquement telle peine qui soit prononcée. Et ça, je pense que c'est un problème tant pour l'éducation que pour la justice, parce qu'il faut tenir compte de la personnalité de l'élève ou du délinquant. C'est un principe de personnalité des peines. Et il faut adapter à l'élève qui a commis une faute à l'école, évidemment, la peine prononcée. Est-ce que c'est une exclusion de quelques jours ou pas bon. Et c'est étonnant, cette volonté finalement de tout faire automatiquement, comme si l'individu n'avait plus aucune importance. Ça, je pense que c'est tout à fait contraire à nos principes. C'est-à-dire que nos principes, c'est quand on commet une faute, une infraction, il faut être sanctionné en fonction des circonstances, de la faute qu'on a commise, et puis des possibilités, évidemment, de réadaptation, de réhabilitation. Si on dit qu'on regrette énormément et qu'on ne va pas recommencer, je pense que quand on a 13 ou 14 ans, ça compte aussi. Et si on est d'accord, par exemple, pour faire un petit travail, pour essayer de s'amender, ça compte aussi. C'est pas la même chose que quelqu'un qui s'obstine dans sa volonté, finalement, délictuelle.
Je pense qu'il faut plutôt comprendre le principe ou le mécanisme, disons, la philosophie d'une peine planchée comme la garantie d'un minimal qu'une sanction sera prise, mais ça n'interdit pas d'adapter la sanction à la circonstance, à la gravité et d'autres éléments à prendre en compte.
La peine planchée, c'est vraiment un barème. Hein. C'était comme ça sous Rachida Dati, ça a été supprimé.
Minimal.
C'est un barème, oui, c'est un barème minimal. Ça existe aux États-Unis,
minimal
ça existe
garantie.
Dans d'autres. Mais ça, c'est l'intérêt, c'est qu'on doit pouvoir toujours descendre dans une sanction, en dessous de la sanction. Y compris dire, on vous donne une leçon, mais si vous ne recommencez pas, si c'est une faute minime, si vous ne recommencez pas, eh bien, vous restez dans l'établissement, par exemple.
Mais du point de vue de la compréhension de la sanction, et de la compréhension aussi par le délinquant ou le jeune collégien qui risque de ne pas respecter le savoir vivre ensemble et le respect de ses enseignants, parce qu'en l'occurrence il s'agit aussi du respect des enseignants, savoir qu'il y a au minimum une peine de ceci ou cela, c'est quand même, d'un point de vue pédagogique, ça lui fait comprendre, de lui dire, si vous vous comportez de telle manière, vous êtes sûr, au minimum, d'obtenir telle sanction. Ce qui, peut-être, peut laisser entrevoir quelque chose de plus grave, qui n'est pas certain, et c'est là qu'interviendra l'appréciation
au cas par cas. Une réponse n'est pas nécessairement une peine. Il peut y avoir une réponse éducative, c'est pas nécessairement une peine. Tout n'est pas sanction dans la vie, surtout quand on est très jeune.
Maxime Repère, le président du RN, entend orienter plus tôt et plus efficacement les élèves avec la fin du collège unique. J'ai bien dit la fin du collège unique. Ça veut dire quoi ? On fait le tri dès le début ?
Non, j'ai lu effectivement qu'il était question de fin du collège unique. Il évoquait également un collège modulaire. Après, je n'ai pas vu plus de détails que cela. Une chose est sûre, c'est que dans le contexte actuel, quand on regarde comment fonctionne l'école, il y a de gros problèmes. Il y a déjà des effectifs beaucoup trop chargés dans les classes, que ce soit au primaire ou dans le secondaire. Il y a aussi de gros problèmes au niveau de l'orientation des élèves, qui n'est pas assez efficace, et des filières qui, qu'elles soient technologiques, professionnelles, qui sont affaiblies. Voilà. Ça, c'est une réalité. Maintenant.
Pardon, je vous ai interrompu.
Non, allez-y.
Anna Cabana, Jordan Bardella cite les modèles allemands et suisses comme source d'inspiration pour l'éducation. Ça veut dire quoi concrètement ?
Parce qu'en fait,
vous avez révisé votre Suisse et votre Allemagne.
Absolument, j'ai révisé toujours quand je viens chez vous, Yves. Le modèle suisse et le modèle allemand ont un point commun, c'est la différenciation précoce. C'est-à-dire que vous avez d'abord une valorisation des filières d'apprentissage, d'accord ? C'est-à-dire qu'une vraie valorisation dans le discours politique, dans le discours éducatif. Oui. Et la précocité, parce que l'orientation a lieu dès 10-11 ans en Suisse et en Allemagne, c'est-à-dire que les enfants sont orientés vers du technique, du technologique ou du professionnel beaucoup, beaucoup plus tôt que chez nous, sans que ce soit des voies, vous voulez, des voies médiocres ou regardées comme telles par la société. Donc c'est ça qu'a en tête Jordan Bardella. D'ailleurs, il a dit le collège modulaire fonctionne chez nos voisins suisses et on l'adapte. On orientera plus tôt et plus efficacement. Lui, il a parlé de la quatrième. Oui. Dès la quatrième, en Allemagne, c'est 10-11 ans ou 12 ans. Donc nous, ce serait la quatrième, c'est un peu
parce que
plus.
Dans le programme de Jordan Bardella, il est question d'instaurer un examen à la fin du CM2 pour empêcher les enfants de passer en sixième lorsqu'ils ne savent pas lire, pas écrire ou pas compter.
C'est idiot ?
Ben non, mais le problème, c'est ce qui se passe après.
Paraître de bon sens pour beaucoup de ceux qui nous écoutent.
Ça existait il y a très longtemps.
La question, certificat d'études, d'une certaine façon.
Okay, la question, c'est qu'aujourd'hui, il y a quasiment un élève sur deux qui ne sait pas écrire, lire ou compter correctement à l'entrée en sixième. Donc la question qu'il faut poser immédiatement après, c'est où on les met, ces enfants ? Dans les établissements qui existent déjà ou dans des établissements dédiés ou des classes ou des écoles dédiées pour leur donner le soutien dont ils ont besoin pour retrouver un parcours normal.
Et de ça, Jordan Bardella a parlé de redoublement. Hein.
Non, il a surtout parlé d'une sixième adaptée à ceux qui ne savent pas encore lire, écrire ou compter. Ce qui, pourquoi pas, ça pourrait justifier. Mais on les met où ? Dans quelles écoles ? Dans quelles classes ? De la même manière, il a parlé de centres éducatifs fermés pour tous ces enfants, perturbateurs, harceleurs. Mais on les met où ? Puisque ces centres existent déjà et qu'ils sont absolument saturé. Mais de la même manière, je poursuis le raisonnement. Il a parlé d'une justice qui doit être intransigeante avec les délinquants. Et quand il était dans l'opposition, il parlait de place de prison. Est-ce qu'on a parlé de place de prison ? Combien ? Des milliers ? Aucun mot là-dessus. Donc l'idée est intéressante. Vous avez vu, je ne donne même pas mon avis sur ce sujet-là. Mais la faisabilité, là, pour le coup, c'était zéro explication.
Eh ben, on va rester là pour ce premier débat. Merci infiniment les uns et les autres.